Bonjour à toutes et à tous, c'est donc le troisième temps de ce chantier thématique.
Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closette. Alors aujourd'hui je viens à vous avec une histoire qui m'est arrivée et que je ne souhaite vraiment pas que ça arrive à qui que ce soit. Donc alors c'était il y a 2 ans, j'avais 20 ans, j'étais à l'université. J'étais à une période dans ma vie où je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais vraiment en questionnement. Je me disais, oui, je fais des études, mais où est-ce que ça m'emmène et tout. Et j'étais vraiment à fond sur Instagram, quoi. Je regardais toutes ces célébrités, toutes ces personnes qui avaient des vies de rêve, qui étaient tout le temps sur des bateaux, en voyage, ici, par-ci, par-là. Et moi, je le voulais. Je voulais vraiment, je les enviais. J'en étais à un point où j'étais vraiment complexée, quoi. Également, à ce moment-là, c'était la période Illuminati, tout le monde découvrait que toutes ces stars c'était des Illuminati, ils avaient signé des pactes, ils avaient des conditions à suivre, etc., etc. Et moi je me suis dit, mais moi aussi je veux ça, je veux cette vie de rêve, je veux être riche, je veux être célèbre, je veux, et je suis prête. Je me disais, je suis prête à payer les conditions, je suis prête à payer le prix.
Nos sociétés assistent non pas à la fin inéluctable de la vie privée, mais à une reformulation et un élargissement de notre compréhension et des modalités de construction sociale de nos sphères personnelles. Notre vision de la vie privée a changé jusqu'à devenir presque méconnaissable. Mais notre besoin de protéger notre intimité et nos informations personnelles est bel et bien là. Si certains ont pu croire à un moment à la possibilité de renoncer aux valeurs de la privacy, c'est à cause de l'ampleur même de nos attentes à l'égard de sa protection. Nous sommes passés d'une vision monodirectionnelle et idéalisée de la vie privée, envisagée comme un noyau de données sensibles exposées au risque de pénétration depuis l'extérieur, à une nouvelle vision de la privacy comme négociation incessante dans un cadre de complexité sociale et technologique. On ne pouvait pas commencer une telle émission sans citer Antonio Caselli. Ça, c'est fait. Il est 14h passé de 2 minutes. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Une des nouveautés de cette rentrée, c'est la rubrique 5 fois qui fait entendre en fin d'émission 5 récits en lien avec notre chantier thématique. Cette semaine, Inès Duperron a poussé la porte du fameux cabinet Duluc, rue du Louvre à Paris. La détective Martine Barret n'a rien bousculé du sacro-saint secret professionnel pour nous parler de son métier. Aujourd'hui, elle nous raconte une affaire de retrouvailles pas complètement réussie. Tendez l'oreille vers 14h50. C'est le troisième temps de ce chantier thématique consacré à la vie privée. Comme chaque mercredi, nous envisageons notre thème depuis les problématiques liées au réseau, liées à Internet, liées au web social. Nous l'entendions en introduction, Antonio Caselli réfute avec d'autres l'hypothèse de la fin de la vie privée. Seulement, écrit aussi le chercheur, il serait erroné d'imaginer que rien n'a changé depuis l'essor du web social. Alors l'observation de ces pratiques liées à la mise en scène, à la mise en ligne d'images ou de récits dévoilant l'intimité demande à ce que soit, à partir de cette sphère, pensée la production de normes sociales et de normes morales. Si la vie privée a ce double statut à la fois de ressource pour le média et de sujet des préoccupations potentielles pour les utilisateurs, ces derniers ne sont pas sans inventer des usages nouveaux, à des fins critiques notamment, mais aussi ludiques ou encore de revendications. Fatima Aziz, vous vous éventez car il fait un peu chaud dans ce studio. Vous êtes doctorante en sociologie visuelle à l'EHESS et vous préparez une thèse sur la figuration de la personne dans les médias électroniques. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour, merci.
Et Sophie Barrel, vous êtes doctorante en sciences de l'information et de la communication. Vous préparez une thèse, vous, sur le thème de l'exposition de la vie privée, notamment celle des femmes. Et vous êtes en direct depuis France Bleu Rennes. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
Et merci aux équipes de France Bleu. Peut-être on va commencer, comme on l'a fait depuis lundi, par savoir à partir de quelle définition de la vie privée vous travaillez, l'une et l'autre dans vos champs respectifs, qui sont des champs qui se recoupent mais qui sont différents. Sophie Barrel, vous travaillez peut-être d'une part avec quel terme et avec quelle définition ?
Déjà, on va dissocier la vie privée, l'intimité et l'intime. Même si avec mes recherches et les questionnaires que j'ai pu faire, j'ai l'impression que la frontière entre intimité et intime est de plus en plus floue. Sachant qu'en fait, vie privée, il y a une notion un peu politique alors qu'il y en a un avec l'intimité qui nous appartient, quelque chose qu'on ne va pas forcément dire, alors que l'intime peut avoir une dimension plus sociale. C'est un peu à partir de là que je suis partie, avec notamment les textes de Michael Fouessel, par exemple.
C'est-à-dire ?
C'était lui, en fait, qui expliquait dans son ouvrage La privation de l'intime, ces dissociations qu'il y avait entre vie privée, intimité, intime. Moi, je vois ça un peu comme un oignon, en fait, avec des couches. Et puis, la vie privée serait plus en surface. Et puis, plus on va au fond, plus on va au fond de soi. Sachant que, eh bien, l'intimité, voilà, c'est ce qu'on ne dira pas. Donc, on le garde pour soi.
Si on garde cette image de l'oignon, donc la dernière couche, ce serait la vie privée, puis l'intimité, puis le noyau dur qui serait l'intime.
L'intimité qui est au centre, il me semble.
L'intimité qui est au centre.
Oui, il me semble. À voir si ma comparse doctorante...
Eh bien, manifestement, pas complètement, Fatima. Vous travaillez avec quoi comme définition ?
Moi, je crois pas trop dans des définitions rigides. Moi, je travaille plutôt, en fait, j'aimerais bien revenir, en fait, sur la distinction entre vie privée et vie publique. En fait, il y a une notion classique de la vie privée qui se définit par une approche spatiale. Vous aviez passé dans l'émission du lundi, vous avez cité l'historienne dans
Michel
les archives,
Béraud.
Michel Béraud, exactement, qui parlait des actes qui sont liés à des espaces. Alors que sur Internet, ce n'est pas du tout le cas. Sur Internet, il y a, et surtout sur les réseaux sociaux, il y a deux paramètres qui entrent en jeu. Donc ces paramètres sont la visibilité qui est accordée par les différents réseaux sociaux. Ils offrent des différents régimes de visibilité que Dominique Cardon a élaboré dans son article « Le design de la visibilité, un essai de cartographie du web 2.0 » dans lequel il parle en fait... la vie privée à l'ère des réseaux sociaux se définit par en fait le jeu avec les différents paramètres de visibilité. Pour prendre l'exemple de Facebook, il parle de la notion du régime de clair-obscur. Par exemple, on va garder l'accessibilité plutôt transparent pour ses proches et obscur pour les inconnus qui peuvent aussi consulter le profil Facebook. Et le deuxième paramètre qui entre en jeu, ce sont les liens relationnels. C'est en fonction du cercle social qu'on constitue qu'on va choisir aussi le niveau de visibilité qu'on va accorder à nos publications et à notre présence et à notre vie privée.
Et ça va, par exemple, pour le cas de Facebook, qui oui. permet de régler ces paramètres. Et d'ailleurs, nous reviendrons sur la manière dont Facebook a ajusté le curseur de ces paramètres de privé et de visibilité. C'est peut-être un petit peu moins le cas pour Facebook et Instagram, c'est peut-être un petit peu moins le cas pour des médias comme Twitter, où tout ce qui est posté est visible par tous.
Oui, donc justement, dans cet article, il parle des différents régimes de visibilité. Donc, Twitter, c'est public. On peut follower, suivre tout le monde sur Twitter et tout le monde peut s'abonner à votre profil. Par contre, même maintenant, Twitter a introduit les différents degrés de visibilité. Par exemple, il y a certains tweets que vous postez qui ne sont visibles que par votre cercle des proches
pas.
Ou qui ne sont pas retweetables que par un certain cercle plus proche que vous avez sur Twitter. Donc en fait, il y a différents types de réseaux sociaux, il y a différents types de visibilité qui sont accordés et qui sont cherchés aussi par les individus.
Et justement, Sophie Barrel, vous observez quoi comme réseaux sociaux ? C'est quoi votre terrain, entre guillemets ?
Alors il y a Facebook, bien sûr, qui a fini par définir plus ou moins les paramètres des autres réseaux sociaux. On a vu justement que Twitter ou Instagram s'adaptent un peu à ces paramètres que font Facebook. Alors après, je suis sur Facebook, Twitter, des blogs aussi, les commentaires Facebook, enfin tout ce que je peux plus ou moins trouver sur Internet, que ça soit de l'écrit ou même de l'image. Je le mets de côté et je l'observe. Et j'ai également fait deux questionnaires que j'ai repartagé ensuite sur Facebook et Twitter pour voir en fait comment les gens définissaient eux l'intime, l'intimité, la vie privée, est-ce qu'ils y voyaient des différences ou pas, après avoir moi lu des livres sur le sujet et voir s'il y avait des différences de perception en fait.
Est-ce que vous avez pu tirer des grandes lignes sur la manière dont les personnes justement établissent le périmètre de leur intimité, de leur intime ou de leur vie privée, ou est-ce que c'est propre à chacune des personnes interrogées ?
Alors justement, dans les choses qui m'ont interpellée dans les réponses, c'est que déjà la notion d'intime et d'intimité qui peut être différente, là c'est plus vraiment le cas. Les gens, pour eux l'intime, c'est forcément quelque chose de toute façon qui va être partagé à un cercle restreint, à une petite communauté, aux proches, aux gens qu'on aime, à des gens qu'on choisit. Mais en tout cas, on le partage. Il y a beaucoup moins cette idée qu'il y a une intimité qu'on garde vraiment que pour soi. Donc, il y a toujours l'aspect social. Il n'y a pas vraiment de différence pour eux entre intime, intimité et vie privée. Bon, déjà, ça, c'était intéressant. Et ensuite, dans la plupart de mes réponses, ce qui était marrant, c'est que la plupart des gens me disaient qu'il y avait autant de définitions de l'intime, de l'intimité et de la vie privée qu'il y a d'individus. Mmh. Et quand je leur demandais de définir ces notions-là, les thèmes étaient toujours les mêmes. Donc, en fait, non, il y a mine de rien une définition de tout ça, en fait. Ce n'est pas, en même temps, tant mieux pour moi, parce que sinon, j'aurais eu plus de 600 réponses différentes et ça aurait été compliqué. Mais
intéressant.
Mais non, il y a des thèmes récurrents, ouais.
Puisque vous évoquez toutes les deux la manière dont ces grandes plateformes comme Facebook façonnent la manière dont on règle la visibilité des contenus privés, des contenus intimes, des contenus relevant de l'intimité. Est-ce qu'il faut considérer que ce sont ces grands groupes qui créent la norme sociale, la norme morale ou de la norme d'usage, ou est-ce qu'ils s'adaptent ? Fatima Aziz.
Je suis d'accord avec Sophie Barrel quand elle dit qu'il y a, pour les utilisateurs, il est important de définir en fait l'intimité et la vie privée selon leurs usages, selon leur cercle privé et restreint. Pour répondre à votre question, je pense que les usages sont pris en compte. Les usages montrent que en fait il y a une négociation avec ces paramètres de visibilité sur ces plateformes et sur ces différents médias sociaux. Il y a trois défis que les individus doivent surmonter, par exemple l'amplification de la visibilité, donc l'échelle de la visibilité a complètement changé, les contenus qu'on publie et qu'on partage et on croit partager juste avec son cercle proche sont aussi visibles par des audiences, par les publics qui sont invisibles, qu'on connaît pas. Il y a aussi une instabilité des interfaces. Il y a souvent des changements des paramètres de confidentialité.
Sans forcément que les utilisateurs soient au courant.
Voilà. Et en plus, en fait, on reproche aux utilisateurs de prendre le temps de lire ces conditions d'utilisation qui sont pas seulement chronophages, mais aussi pas très claires. Et troisième défi que les utilisateurs rencontrent pour régler leur visibilité sur ces plateformes, c'est la convergence. Donc il y a les convergences des usages, mais il y a aussi une convergence des publics. Il y a un mélange des cercles proches, des cercles éloignés. Par les proches, je veux dire des amis, de la famille. Mais on n'a pas forcément envie de montrer ce qu'on publie à sa famille. Et donc il y a aussi cette convergence et une certaine ambiguïté et aplatissement des liens sociaux
et des contenus qui sont mis en ligne en conséquence, c'est-à-dire tout ce que vous décrivez là comme défi rencontré par les utilisateurs, ça change entre guillemets la charte de cette négociation qu'ils ont eux-mêmes avec ce qu'ils publient de leur vie privée.
Oui, et en fait ça devient, pour revenir à la question de la définition de la vie privée, un autre facteur qui entre en ligne de compte, c'est la négociation qui est permanente entre ces paramètres qui sont imposés par les plateformes, mais aussi les dynamiques relationnelles au sein des cercles.
Là, j'en étais vraiment à un point où j'étais désespérée de la vie. Je voulais cette vie de rêve, je voulais être célèbre, je voulais être riche et je voulais rapidement. Je viens quand même d'une famille aisée. je vais pas me plaindre. Il y a des personnes qui ont beaucoup moins que ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Mais je n'étais vraiment pas reconnaissante. Tout ce que je voyais, c'est ce que je n'avais pas. Tout ce que je voyais, c'est ce que les autres avaient. Et là, je me suis dit, oui, je suis prête à payer le prix. Je suis prête à remplir les conditions. Je suis allée, j'étais toute seule sur la plage dans la nuit. Et j'ai commencé à crier. J'ai crié fort. J'ai dit, je suis prête à vendre mon âme au diable. Je l'ai dit tellement fort. Je l'ai crié. J'étais désespérée. Je pleurais. Pour vous dire à quel point l'envie était là. Je l'ai crié 3 fois. Et ensuite, je suis rentrée dans la chambre. Je suis allée dormir. Je fais un rêve. Un cauchemar, en fait. C'était un cauchemar. Dans ce cauchemar, je sentais comme une force qui m'aspirait, qui essayait d'aspirer quelque chose de moi. Et c'était une force diabolique, une force vraiment méchante. Et il y avait un rire en fond. C'était comme mouhahahaha, mouhahahaha. Genre, là je le fais comme à la rigolade là, mais sur le coup je riais pas. Hein. C'était vraiment méchant et ça disait oui, je suis venue te chercher, je suis venue te chercher. Et c'était très fort. Et à ce moment-là, j'étais en panique. J'ai réalisé la connerie que j'étais en train de faire. Et immédiatement, parce que je sentais de la haine, je sentais de la souffrance dans ce truc-là qui essayait de me prendre. Là. Je sentais que du négatif. Et au fond de moi, mon âme réalisait que ben, c'est une connerie. Arrête, arrête. Fait que là, je me suis mise à prier dans mon rêve. Je priais parce que je n'arrivais pas à me réveiller. Pendant plus d'un mois, là, j'étais choquée, j'avais peur. Je réalisais la connerie que j'ai voulu faire. Et je priais encore plus maintenant. Là, après cet événement-là, j'ai commencé à prier comme jamais. Je priais avant, là, mais là, je priais vraiment comme jamais. Bref, tout ça pour vous dire que faites attention à ce que vous désirez parce que la parole a un pouvoir. Quand ta parole s'allie à ton cœur et ta volonté, quand tout c'est en symbiose, tout ce que vous dites, faites très très attention parce que vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes capable d'attirer vers vous, que ce soit positif ou négatif. Donc faites vraiment vraiment attention à tout ce que vous désirez.
C'est donc ma découverte d'aujourd'hui. Je vous présente à qui ne la connaît pas, Maggie Closette, une youtubeuse canadienne qui n'est pas si connue que ça, puisqu'elle a 12 000 followers sur sa chaîne YouTube. C'est pas mal, mais ça ne relève pas de la folie de certaines youtubeuses. Mm-hmm. Elle se filme et donc elle raconte. Elle raconte beaucoup de choses qui, selon les définitions que tout de même nous avons données jusqu'à maintenant, relèvent de la vie privée. Des rêves, des désirs, et la religion, la prière, mais aussi l'idée qu'elle était prête à payer le prix pour cette visibilité. Là, on revient encore à Antonio Casilli qui dit « Pour se faire connaître oblige à un sacrifice sur le plan de la visibilité de la vie privée. » C'est-à-dire, cette négociation se situerait, Fatima Aziz, à ce niveau-là. « Pour me rendre visible, je dois donner un petit peu de ce gage de la visibilité de cette vie privée. »
Merci beaucoup pour cet extrait de youtubeuse que je connaissais pas du tout et que je vais voir dès mon retour.
C'est notre plaisir.
En fait, il y a le partage des contenus sur les réseaux sociaux. J'observe notamment Facebook et d'autres applications mobiles. Le cas de YouTube est différent. Parce que là, vous êtes en train de communiquer à un cercle beaucoup plus élargi. Vous vous adressez à un public, à une audience. Et c'est intéressant d'injecter dans cette communication des parties privées, j'ai envie de dire privées et personnelles. De votre vie pour justement créer une certaine connivence avec l'audience, pour susciter son émotion, son empathie et pour en fait après avoir une interaction sur cette base-là parce qu'on s'adresse à des inconnus donc on a besoin de partir sur des choses connues. Et des choses vécues, ce sont des expériences qui sont identifiables. On peut s'identifier à un rêve, un cauchemar. Donc voilà, ce sont tous des éléments qui vont donner, en fait, qui vont animer la conversation, qui vont attirer les gens, l'audience vers sa chaîne sur YouTube.
Donc c'est une stratégie sociale bien que sûr. La mise en place dans le discours et dans le récit d'éléments de la vie privée ou de simili éléments de la vie privée.
En fait, oui, voilà, c'est une sorte de c'est une sorte d'attraction. C'est pour attirer les gens, pour susciter leur attention et la chose la plus on va dire il y a rien de mal en cela, mais la chose la plus
partageable commune
c'est partager ses expériences personnelles. Voilà.
Donc ça veut dire quand elle dit « je suis prête à payer le prix » puisqu'on l'entendait aussi dans l'exergue, je voyais passer sur Instagram, sur les réseaux sociaux, des vies privées qui me faisaient rêver et je voulais être ça. Mm-hmm. Quand elle dit « je suis prête à payer le prix pour la visibilité », ça veut dire qu'elle a conscience de ses forces et de ses stratégies d'une certaine manière.
En fait, Maggie Closette, je vais voir de plus près son témoignage. C'est un témoignage qu'elle nous livre. Et dans son témoignage, elle parle en fait de la réception de tous ces contenus qui font rêver et qui font aussi réfléchir sur sa propre vie et qui suscitent un éventail des émotions. Donc en fait, c'est ça ce qui est le plus intéressant dans ce témoignage, c'est de partager la réception de ces contenus qu'elle pense qu'il y a un prix pour payer. Donc elle est, oui, bien sûr, elle est consciente qu'il y a un prix à payer pour se mettre en scène sur les différents réseaux sociaux.
Sophie Barrel, cette conscience-là que la vie privée est une monnaie et une monnaie intéressante pour monnayer sa visibilité et la possibilité de se faire connaître sur les réseaux, c'est quelque chose que vous avez, une mécanique que vous avez rencontrée dans vos recherches?
Ah oui, complètement. Bon, déjà, Internet, c'est gratuit pour tous. C'est comme on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein. La vie privée, la donnée personnelle est devenue un moyen de... Enfin, une monnaie d'échange, hein, tout bêtement, pour déjà pour le système. Je pense que ça a déjà été abordé hier, mais enfin, après, moi, dans mon sujet et dans le cadre de la revendication politique, par exemple, oui, complètement. Enfin, c'est une façon d'attirer l'attention de l'autre. Il y a des personnes qui affichent clairement utiliser leur intime pour interpeller l'autre et ensuite pouvoir lui parler de politique ou autre.
Mais pareil, sous l'idée que c'est le plus petit dénominateur commun et que, à coup sûr, c'est quelque chose que nous avons en commun. Ça part de cette idée-là?
Ah oui. Ah bah complètement. Enfin, il y a ce principe déjà de témoignage que moi je lis beaucoup, où le privé, la donnée privée, l'histoire personnelle aurait potentiellement plus de valeur que tout ce qui est témoignage ou information dite objective. Il y a vachement de parallèles qui se font entre l'information journalistique par exemple et le témoignage qu'on peut trouver en ligne, personnel, privé. Et comme c'est quelque chose que nous partageons tous, dans lequel on peut tous se retrouver,
il y a plus d'audience.
Si on a foison sur Internet, il y a beaucoup plus d'audience, oui.
La mère de famille a gagné Internet. Et en fait, c'est les statistiques qui montrent que, alors, au début, c'était beaucoup des gens un peu, ce qu'on appelle les geeks, mais un peu des asociaux qui étaient sur Internet, etc. Donc, pas des gens qui étaient des mères de famille américaines bien installées avec plein d'enfants. Et ça y est, les mères de famille ont emporté Internet. Elles sont excessivement nombreuses, ce qui explique que beaucoup de sites vont maintenant privilégier tous les sujets parenting, parce que ça s'appelle le parenting maintenant, ou la parentalité. Et y a une espèce de prime aux mignons. À tout ce qui est mignon, il y a les bébés mignons, les chats mignons, voilà. Donc ça, c'est un phénomène, il y a eu une bascule. Internet est devenu l'Internet des parents. J'ai toujours dit que je ne posterai pas le visage de mes enfants de manière reconnaissable, ni leur identité civile. Et donc voilà, j'ai pris une photo, on nous voit tous les trois dans le reflet d'une banque, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Et donc on ne les voit pas très bien. Ce qui m'intéressait, c'était la posture... Bah, on voit, par contre, on voit clairement que mon fils aîné est en pyjama et qu'il a une sucette à la main et que donc déjà chronologiquement il y a eu un problème dans cette journée. Donc c'était le côté un peu loose et survie à ce moment-là. C'est un peu l'inverse des photos habituelles. En plus, c'est une photo de vacances. Normalement, les photos de vacances, des enfants merveilleux, une plage de sable doré. Non, nous, on est devant un reflet de banque, on ressemble à rien. Enfin voilà. Ce qui m'intéressait, c'était l'impression générale. C'était pas tant avoir une photo de mes enfants à ce moment-là. Plus on vieillit, plus on voit de gens qui ont des photos de bébés qui apparaissent, etc. Et puis, ça a un rapport au temps. C'est-à-dire que, pareil, des blogueuses que je suivais, maintenant, elles ont eu des enfants, elles postent les photos des enfants. Enfin bon. Et surtout, il y a eu l'émergence d'Instagram, qui est un réseau social qui ne repose que sur la photographie et la mise en scène de soi, et de sa famille, et de son intimité. Ce que Facebook ou Twitter ne sont pas à ce point-là. Donc, du coup, vraiment, avec Instagram, on a basculé dans cette culture-là. Ce sont des espèces de pratiques culturelles, parce que on est effectivement maintenant dans une photo prise sur l'instant. Alors, c'est beaucoup plus, par exemple, les parents vont prendre leurs enfants en photo. On va avoir moins sur Internet de photos de toute la famille réunie. Les parents se prennent pas en photo avec leurs enfants, ou en tout cas, les postent pas sur Internet. Ça, c'est un peu de mauvais goût. On ne comprend que les enfants. Je m'efface devant mes enfants. Sur un moment très joyeux qui a l'air très spontané. Mais en fait, ces photos sont beaucoup plus retravaillées que les anciennes. C'est-à-dire qu'évidemment, elles ont mis 10 minutes à essayer tous les filtres possibles, qu'elles ont fait des retouches photos, qu'elles avaient mitraillé 40 photos et qu'elles ont choisi la meilleure. Donc ce côté, on tend vers saisir la spontanéité et l'instant de joie. Et en fait, un travail de production, c'est de la production derrière qui est effarant.
Vous écoutez France Culture ? Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Would you be interested in switching your internet service providing to a provider that provides a better service of internet service providing than your current provider?
M.I.A. avec le titre Internet Connection, qui fait tout de suite à la voix de Titiou Lecoq. Elle était invitée aux Nouvelles Vagues en novembre 2015 dernier, et on l'entendait dire plein de choses. Peut-être commencer par la manière dont elle poste une photo de ses enfants un matin pendant les vacances, un peu tard, son fils est encore en pyjama et il mange une sucette alors qu'il devrait ou bien se diriger vers un déjeuner très équilibré ou bien terminer son petit déjeuner. Et on l'entend dire, Titiou Lecoq, ce qui m'intéressait en postant cette photographie. Sophie Barrel, on revient à l'idée de l'utilisation de la mise en scène et de la mise en ligne de sa vie privée pour dire quelque chose, pour revendiquer quelque chose, là, dans le cadre de normes familiales.
Ah bah, enfin, ces photos avec les enfants, etc., déjà, c'est marrant parce que ça fait partie des thématiques qui sont beaucoup ressorties dans mon questionnaire quand je demandais aux gens qu'est-ce qui, pour vous, est de l'ordre de l'intime, etc., etc. Et les photographies des enfants, ça a été cité et re-recité. Là, moi, je vois ça un peu comme une espèce d'injonction à l'authenticité et au bonheur, presque, en fait, de voir être une jolie petite famille. Et je dis ça et je pense que moi-même je suis là-dedans, hein, donc.
C'est-à-dire vous êtes sensible à ce que l'exposition de la vie privée de certaines familles vous renvoie comme image.
Ah oui, moi je sais que, enfin, par exemple, c'est quelque chose qui me procure un sentiment de bien-être. Voir des jolies familles, des jolies maisons, des gens heureux, etc. C'est quelque chose que personnellement je vais regarder parce que ça me fait du bien, ouais.
D'autres personnes pourraient considérer que, au contraire, c'est une pression sociale qui les obligerait à avoir au plus vite des enfants, si possible une jolie maison avec un joli mari et d'autres jolis ustensiles. Allant avec tout ça, beaucoup parlent de pression, au contraire, en regardant ces choses.
Ouais, bah c'est pour ça que je parlais d'injonction au bonheur, justement. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés en voyant la joie de l'autre. Et c'est pour ça que dans les thèmes qui ressortaient sur qu'est-ce que l'intime par les personnes qui ont répondu au questionnaire, il y avait les expressions de joie. Et de tristesse, hein, mais là du coup je peux parler d'expression de joie, et l'expression de joie est considérée comme quelque chose d'intime qui ne devrait pas forcément être partagé, possiblement parce que ça peut renvoyer d'autres personnes à ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, etc., etc. Mais moi je sais que, par exemple, voir des gens qui postent leurs photos de vacances quand je ne suis pas en vacances, ça me saoule. Voilà.
Titiou Lecoq, elle parlait aussi du tournant, de l'arrivée massive de l'utilisation du réseau social Instagram, où les photographies sont mises en ligne sans quasiment qu'elles ne soient commentées. Qu'est-ce que ça change dans la figuration de la personne, puisque c'est le thème de votre thèse, Fatima Aziz, sur le web social? Qu'est-ce que Instagram modifie ou fait bouger comme ligne?
Juste pour revenir sur le passage de Titiou Lecoq, il y a deux choses qui, après je vais répondre à votre question. Il y a deux choses qui sont très intéressantes. Elle commence son témoignage par un sentiment de pression. Elle parle, aujourd'hui ça s'appelle du parenting. Maintenant c'est du parenting. Je suis mère de famille.
En tout cas, elle dit que c'est ça qui marche et elle parle d'une prise de pouvoir, de visibilité des mères de famille sur l'internet.
Voilà, en fait, elle part d'une expérience personnelle et aussi on sent dans son témoignage une certaine pression sociale. Et ce qui est intéressant, c'est que en postant cette photo, même si certains considèrent comme une photo assez banale. Mais sur Instagram, c'est justement cela. Il y a une convergence, comme je disais tout à l'heure, il y a une convergence des usages, des publics et aussi des contenus. En parallèle des photos de Kim Kardashian, on va aussi voir des photos des mères de famille retouchées, passées au filtre, avec des emojis, avec de l'écriture. En parallèle, on va voir aussi la photographie de Titiou Lecoq. Donc, en fait, pourquoi on les poste sur Instagram? C'est aussi pour retrouver une ressource au sein de cette communauté d'Instagram. Je ne sais pas combien de hashtags Titou a mis avec sa photo pour remonter cette photo dans la visibilité sur Instagram, combien de likes ça a reçu, combien de commentaires.
En l'occurrence, dans mon souvenir, c'était sur son blog. Je ne sais pas si c'était
d'accord,
sur Instagram.
D'accord, ok. Donc, c'est aussi une proposition de conversation, de communiquer et de retrouver sa communauté. Donc il y a certainement d'autres mamans qui vont revenir partager soit des photos, soit leurs expériences. Donc c'est dans une démarche de retrouver de la sociabilité et de retrouver des ressources en ligne pour en fait enlever cette part de la pression sociale que les mères de famille elles ressentent quand elles regardent les photos joyeuses et photographiables et qui sont conformes aux règles et aux préceptes qui ont été diffusés depuis la mention de l'album photo familial où on sélectionne les meilleurs clichés où il y a déjà une mise en scène
de sa vie privée, de sa vie privée.
Et c'est aussi, c'est pas l'album familial, c'est pour être partagé avec des invités. Donc c'est un peu comme Instagram. Ce qui change, c'est l'échelle de la visibilité et la recherche d'une communauté des semblables. Donc
La fréquence de publication peut-être.
Et la fréquence de publication aussi. Bien sûr.
Je fais une petite alerte genre, puisque vous dites les mères de famille, assez comme ça systématiquement dans notre discours depuis tout à l'heure, on parle beaucoup des femmes, des jeunes femmes qui postent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un usage spécifique de la mise en scène de la vie privée, de la mise en ligne de la vie privée, que ce soit par le récit ou par l'image, du côté des femmes? Oui, par exemple, Fatima.
Ok. Avant de venir, j'étais en train de lire quelques articles et en fait sur justement pourquoi les parents ils partagent les photos de leur bébé, les photos de leur grossesse. Enfin, les femmes qui partagent les photos de leur grossesse sur leur blog, sur Instagram.
Là, on est à un niveau d'intimité de vie privée qui est quand même assez élevé.
Oui, oui, tout à fait. Donc c'est aussi en fait il y a d'après ces études, oui, il y a plus, ce sont plutôt des femmes qui partagent plus ces photos et c'est aussi une recherche de ses semblables et d'avoir en fait une certaine rechercher une certaine solidarité féminine sur ces plateformes, sur ces blogs. Donc,
qu'on sent quand même une forme de très grande ambivalence. C'est qu'à la fois, il y a la pression sociale, une forme de norme qu'on nourrit. C'est vraiment une nourriture de la bête en postant ces photos parfaites, ces corps de ventre rebondis, ou de fêtes d'anniversaire, ou de sorties au jardin. Et en même temps, vous dites, c'est utilisé pour des questions de solidarité ou éventuellement de revendications si on va sur le terrain de Sophie Darrel.
Oui, par exemple... Ah, pardon.
Non, allez-y.
Non, par exemple, ce contenu, on ne le retrouvait pas avant dans les albums de famille ou même dans les boîtes de chaussures. Ce sont vraiment... c'est un nouveau contenu visuel qui apparaît sur les réseaux sociaux et les usages montrent que c'est vraiment pour... Voilà, oui, c'est quelque chose d'intime qu'on partage, mais pour justement créer du lien avec d'autres femmes et de créer une sorte de ressource, une solidarité sur le web. Je ne sais pas si je réponds à votre question.
Si, d'une certaine manière. Sophie Barrel, sur les usages et sur les comportements genrés, est-ce qu'il y a une particularité d'usage et de pratique des mises en ligne et des mises en scène de la vie privée par les femmes?
Alors, en fait, pour moi, il y a une... Enfin, j'ai une impression par rapport à tout ça, c'est que... en fait, mes questionnaires n'étaient pas fermés à un genre ou à un autre, parce que je voulais savoir si la question du genre par rapport à l'expression de l'intimité sur Internet était pertinente ou pas.
D'ailleurs, ça commençait par la question du genre, ce questionnaire.
Voilà. Et du coup, la question que je me posais, c'était, tiens, est-ce qu'on est dans un peu... Est-ce qu'il y a un décalage entre ces deux modes d'expression en fonction du genre? Et mon hypothèse, c'est que oui, le genre masculin serait plus dans la protection de la vie privée, alors que la femme est encore dans le stade de la représentation, tout bêtement, parce que les hommes sont quand même majoritairement plus représentés que les femmes, médiatiquement parlant, etc., etc. Et Internet permet à tout à chacun de s'exprimer, et elles ont pris possession de cet outil pour pouvoir le faire. Et là, peut-être que dans 10 ou 20 ans, on sera un peu plus dans la protection de la vie privée. Mais là, à l'heure actuelle, le combat, c'est exister, tout bêtement.
Donc c'est
sur la place médiatique.
C'est le levier qui est choisi, ce levier de la vie privée dont on a vu tout à l'heure qu'il fonctionnait très bien et qu'il créait de l'audience, pour pallier à un déséquilibre de visibilité générale dans la société.
Voilà. Ouais, pour exister. Donc ça peut être à plein de niveaux. Enfin, je veux dire, on parlait des mamans par exemple, mais il y a aussi les femmes qui ne veulent pas d'enfants qui s'expriment. Et enfin, toutes sortes de communautés peut prendre le pas sur Internet et se dire allez hop, on y va, on existe quoi.
Mais ça par contre, c'est un thème. Mais le thème de la parentalité, de la grossesse, de la maternité, qu'il soit positif ou négatif, je veux des enfants, j'en ai, ou au contraire, je n'en veux pas, je n'en ai pas, c'est prédominant dans les thèmes d'exposition de la vie privée ?
C'est un des thèmes. Il n'y a pas que celui-là. Bon, c'est sûr que comme ça englobe le thème de la famille et que la famille, c'est la sphère privée un peu par essence à la base, forcément, c'est une grande place. Mais il y a aussi le thème de la sexualité, hein, bah, le thème du genre aussi, qui mine de rien très intime. Qu'est-ce que j'ai d'autre
sur le terrain de la sexualité, sur le terrain de la sexualité, ça s'exprime comment? Là aussi, ça crée de l'audience. On sait que ça crée de l'audience.
Ah oui. Ah oui, oui. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des personnes qui utilisaient leur intimité pour capter l'attention et pouvoir parler ensuite de politique. Le sexe en fait clairement partie. Ça peut être montrer des photos de ses seins sur Twitter et pour avoir ensuite un discours politisé. Dire, ben, si les hommes ont le droit de le faire, moi aussi. Alors que, enfin, c'est supposé ne pas apparaître sur les réseaux, hein, les tétons féminins. Merci la censure Facebook, Instagram, etc., etc. Mais clairement, le sexe, par exemple, peut prendre plein de formes. Mais ça peut être aussi un tweet disant ah bah tiens, j'ai couché avec Bidule tout à l'heure en taguant la personne. Ça peut être avoir un blog où on raconte sa vie sexuelle, qui peut être hors norme entre guillemets, qui peut montrer les différences en fait. Et donc, il n'y a pas qu'une seule norme.
Et sur le terrain de la vie quotidienne, puisque vous disiez, il y a ces trois grandes sphères, cette vie familiale, la vie sexuelle, la vie affective. Quand vous parlez de vie quotidienne, ça prend quoi comme forme ?
Alors, la vie quotidienne, c'est par exemple ces gens qui arrivent sur Twitter en disant « Bonjour Twitter, je viens de me brosser les dents, je viens de me maquiller dans le métro, je viens de faire ça, j'ai rencontré Bidule » ou des choses qui sont considérées par les gens comme inintéressantes. Et que moi, mine de rien, je trouve hyper intéressant parce que dans une société où on pousse les gens à vivre seuls, à être des individus, à savoir tout faire tout seul, être très indépendant, on n'a plus personne parfois pour observer ce quotidien. Enfin, déjà, on nous pousse, par exemple, à vivre un moment de façon, tout seul. Et toutes ces choses du quotidien, comme, oui, se lever, aller se coucher, dire bonne nuit à quelqu'un, dire que je me suis brossé les dents, ou ce genre de choses, faire les magasins et devoir choisir des vêtements, etc. Il y a des gens qui le partagent sur Twitter pour avoir des avis. Et c'est comme si Twitter devenait...
La personne Facebook, à qui on ne peut pas le dire par ailleurs.
Voilà, c'est ça. Et en fait, ça devient ce proche qui vit avec nous, qui est là et qui constate notre quotidien, cette chose qui n'était que de l'ordre de la vie privée et qui devient de l'intime et de l'intimité juste parce qu'on est tout seul.
Fatima Azzi ?
C'est très intéressant. En fait, ce dont Sophie Barrel parle, ce sont des usages fatigues de Twitter. Donc on envoie ces petites bouteilles à la mer pour justement donner signe de vie, pour entretenir la sociabilité avec son cercle de privé, de cercle de proches ou cercle un peu plus éloigné.
C'est
voilà,
ça,
oui.
Ou pas proche du tout.
Ou pas proche du tout, tout à fait, tout à fait. Et en fait, voilà, c'est justement pour donner signe de vie. Signe de vie, qu'on existe, pour se donner une visibilité. C'est aussi, et on sait voilà que ça va être noyé dans la masse d'autres informations, dans le flux, ça va être noyé.
Donc l'impression de dévoilement n'est pas si grande.
Voilà, donc en fait c'est ça. Parce que pour revenir à la question de l'intime, en fait ce n'est pas par le contenu que l'intime est défini, c'est par le lien qu'on a avec notre interlocuteur et le contexte qui définissent le caractère intime de d'un contenu sur Internet. Donc c'est ça aussi. Donc voilà, on peut envoyer ces petites bribes de la vie personnelle, de la vie intime, mais on sait que ça va être perdu dans la masse, dans le flux des autres publications.
Si je devais enregistrer tous les snaps que je fais en une journée, je sais pas, 5 peut-être par journée. Ça fait beaucoup quand on enregistre tous les jours, je pense. La mémoire après.
Ça vous angoisse pas un peu de laisser toutes ces traces sur le net?
En plus, hier, j'étais en train de regarder, j'ai tapé mon nom sur Internet. On va voir. Non, mais arrêtez. Si, ça m'angoisse, moi. Les patrons et tout ça, ils regardent beaucoup sur Internet pour voir ce qu'il y a de nous, en fait. Et moi, ça m'angoisse. Et en plus, il y a des trucs que j'arrive pas à supprimer. Alors, du fait que je traîne beaucoup sur tous les réseaux sociaux, un peu tout.
Mais par exemple, le fait de laisser une trace quelque part, ça peut être chouette aussi, parce que dans 10 ans... comme quand nos parents nous racontaient ah, moi quand j'avais ton âge je faisais ça. Si on a des enfants un jour, et bah, ça me paraît ouf, mais ils pourront aller voir sur notre Instagram comment on était quand on avait 17 ans. Du coup on laisse quand même une part de notre personnalité. Les gens savent ce qu'on aime, après ce qu'on aime pas c'est plus difficile.
Que sera votre vie quand le silence entre les sons se remplira de cris? Que sera votre vie quand une heure durera de 7 à 8 minutes. Que sera votre vie quand la terre tournera sans vous prendre sur son dos?
Que sera votre vie quand? C'est un écho, cette chanson de Katonoma, à la voix des jeunes filles qu'on entendait précédemment, un extrait de Sur les docks, documentaire signé Marie Chartron, diffusé en janvier 2016 dernier, sur la pratique des adolescents et de Snapchat. C'est un autre réseau social qui met en ligne de manière instantanée des photographies. Là aussi, la vie privée et la vie quotidienne est extrêmement présente. Est-ce qu'il y a quelque chose de vrai dans cette légende selon laquelle les adolescents seraient moins regardant sur la manière dont ils mettent en ligne des extraits entre guillemets de leur vie privée, Fatima Aziz?
Moi, regardant, j'aime beaucoup cette manière de détourner, qu'ils fassent pas attention à leur à leur vie privée.
En même temps, elles ont l'air de dire un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elles se soucient de devenir de ces extraits de leur vie privée.
C'est intéressant parce que c'est par rapport à leurs parents, par rapport aux recruteurs futurs. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cet extrait et ce qui est aussi intéressant dans des études sur Snapchat, notamment par Laurence Allard, qui est spécialiste de l'adolescence et des usages de mobile, c'est que en fait Snapchat n'est pas du tout comme Facebook. Snapchat, c'est réservé au cercle privé. C'est comme la cour de récré, alors que sur Facebook, ça devient un peu la classe, la salle de classe. Et donc, en fait, c'est une manière de restreindre la visibilité, de restreindre la visibilité justement à quelques élus à qui, avec qui on partage le code Snapchat et on partage des bêtises, des choses qui font rire. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce partage et dans cette mise en scène, c'est il faut jamais oublier que c'est un apprentissage. Donc ça demande un apprentissage de l'outil. C'est vraiment comme Laurence Allard dit, c'est une technologie de soi, ce qui permet de découvrir le soi, mais avec les autres. Donc ça devient vraiment un partage et une construction et une mise en scène collectif et pas du tout individuel. Et donc de ce point de vue, les adolescents, ils sont conscients de qui les regarde et comment ils vont se présenter, parce que pour eux, à ce stade-là, la validation par les pairs, c'est plus important que la validation par les professeurs ou par les parents.
Y compris si cette validation par les pairs passe par une forme de dévoilement. Alors avec Snapchat, il y a l'idée aussi de cet éphémère qui est assez intéressant, même si on peut, même si on peut garder en mémoire. Est-ce que ça bouge les curseurs, le fait que ce soit comme une petite cour d'amis? Est-ce qu'on veut vers du très privé? Je le citerai pas, mais parmi les ados, plein d'ados qu'on a rencontrés l'année dernière, ils nous racontaient que sur Snapchat, par exemple, il y avait beaucoup de photos de lui aux toilettes.
C'est justement, en fait, c'est un... Oui, bien sûr, on bouge le curseur et ça veut dire aussi que c'est un lieu d'expérimentation où, justement, on peut montrer qu'on a pris des risques, mais on les partage uniquement avec ses proches. On ne va pas le partager, par exemple, sur Facebook. Il y a beaucoup de photos de profil des adolescents qui sont des captures d'écran de leur Snapchat. Mais ces photos de toilettes ou d'autres photos avec des scènes où on est dans des activités un peu risquées, on va l'appeler comme ça, sont réservées vraiment pour les quelques amis, parce que l'intimité, c'est aussi... Donc voilà, on crée cette intimité en réservant l'accès à ces activités juste à un cercle très très restreint, et l'intimité devient en fait une clé importante pour faire valoir sa personnalité auprès des amis.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richaud.
14h52, vous nous écoutez où vous voulez. Sur France Culture, on change peut-être de cercle, mais on ne sait jamais en fait qui suit et qui regarde et qui épie une détective privée. Inès Duperron a rencontré pour nous Martine Barret. Elle officie au cabinet Duluc depuis 50 ans.
Alors pour faire un bon privé, je pense qu'il faut être intelligent, patient, endurant, pugnace... Il faut avoir une bonne forme physique. À partir du moment où vous êtes trop bringueur, que vous faites la java jusqu'à 4 heures du matin, que vous avez une affaire à prendre à 6, qui peut durer 12 heures, 13 heures, 14 heures, il faut vraiment boire de l'eau la veille, je dirais.
Et c'est sportif, pour être
efficace. Bah oui, des fois il faut courir, des fois vous faites des surveillances en moto.
Vous sillonnez un peu la France ou vous exercez surtout en Île-de-France?
Ah non, on sillonne la France, on peut. Voilà, ça dépend des affaires qui nous sont confiées. Vous avez une autorisation qui doit être délivrée maintenant depuis janvier 2012 par le ministère de l'Intérieur pour exercer cette profession. Donc, ce qui avant
n'était pas le cas.
Cette autorisation était délivrée en préfecture. Et avant, ce n'était pas le cas. Un privé pouvait louer une chambre de bonne, des locaux et s'installer. Bon, toutes les affaires sont importantes. Il y a des gens qui me disent, qui viennent me voir, qui disent « c'est une petite affaire, il n'y a pas de petites affaires ». Donc moi, à partir du moment où je prends une affaire, c'est vraiment du 100%. Et il y avait une dame qui voulait retrouver son papa et qui... avait enquêté pendant 10 ans. Et elle est venue ici en disant, bon, je fais la démarche une dernière fois et ils vont pas le retrouver. On l'a retrouvé décédé et on a fait, je dirais, un parcours sur sa vie, sur la vie de ce monsieur. Et quand je lui ai donné toutes ces informations, elle pleurait et c'était tellement émouvant que je pleurais un peu avec elle, quoi. Et ça, c'est... Vous savez, il y a des instants, des fois, qui sont prenants parce que vous dites... vous apprenez des choses aux gens, ils sont là pour être enseignés. Et des fois, c'est pas toujours facile à entendre. Donc, il faut savoir, je dirais, avoir tout le tact nécessaire pour leur apprendre des nouvelles. Je reçois des hommes et des femmes qui me confient, alors que je les ai jamais vus et je les ai jamais rencontrés, des choses qui sont vraiment à fond, je dirais, dans leur vie privée. Ils me confient des choses très intimes, alors que ils peuvent pas, de temps en temps, ils sont très seuls et ils peuvent pas dire à leurs enfants ni à leurs parents, de temps en temps à leurs amis, mais et ça peut leur soulager. Moi, c'est ça que j'ai de la vie privée qui fait que... C'est vrai qu'il me confie plein de choses très, très, très privées.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleuse d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murènes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas née. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, geyser. Pour un peu, je trempais. Histoire d'eau. La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton ego? J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer, seulement t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus, des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseuse de loup, dynamiteuse d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho? Où subsiste encore ton ego? On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleuse d'amphores au fond des criques.
La beauté, c'est Rosemary Stanley qui reprend Alain Bashung, La nuit je mens, comme ça chacun fera ce qu'il voudra toute la nuit. Fatima Aziz, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup,
Sophie
merci
Barrel,
à Sophie aussi.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Rennes et merci aux équipes de France Bleu. Les nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. On peut continuer à échanger sur Twitter, Facebook, mais aussi franceculture.fr où vous pouvez vous abonner au podcast. Merci à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission avec moi. Et à Véronique Villa qui la réalise aux manettes aujourd'hui. C'était Théo Gomard. Dans un instant, la littérature avec Mathieu Garrigou-Lagrange. À demain!